RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. L'affaire de la supposée drogue retrouvée dans le sac de Rima Hassan la semaine dernière, affaire classée sans suite par le parquet de Paris hier, estimant qu'aucune infraction n'était suffisamment caractérisée après des analyses poussées. Alors qu'on dit les analyses en question justement, et bien le produit retrouvé présente selon le parquet une teneur élevée en CBD, un dérivé du cannabis totalement légal. Pourquoi ce produit a-t-il réagi positivement à la catinone, la drogue de synthèse? Eh bien, le parquet ne l'explique pas. Une seconde substance avait été prélevée sur Rima Hassan, du CBD aussi, avec un taux de THC, le principe psychoactif du cannabis, légèrement supérieur à la norme autorisée. Il ne ressort donc pas de cette procédure la caractérisation suffisante d'un élément intentionnel qui aurait été nécessaire à qualifier une infraction. C'est ce qu'indique le parquet. Charles Consigny.
Je m'en fous un petit peu.
Ah bon, on voulait ton éclairage d'avocat. Flora.
Pas ça passionnant.
On s'en fout pas.
Abel.
Je m'en fous pas.
Bon, tu t'en fous complètement alors?
Non, il s'en fout.
D'accord. Complet.
Et la droite s'en fout.
Flora.
Moi, je m'en fous pas parce que je trouve que c'est dangereux. Rima Hassan, elle est visée, elle va être jugée pour apologie du terrorisme.
Ça, c'est maintenu, évidemment.
Et on a passé 15 jours à parler de la supposée drogue qu'elle avait dans son sac. Et pour le coup, c'est hyper injuste que les médias s'emballent sur quelque chose qui n'est pas confirmé. Et je trouve que dans l'ère dans laquelle nous sommes, Twitter et compagnie, ça fait beaucoup de dégâts. Parce que déjà, on parle que de ça et on parle pas vraiment du procès qui est quand même pour apologie du terrorisme. C'est pas rien. Une élue européenne qui visait pour un grief aussi grave, et d'autre part, c'est injuste pour Rima Hassan, parce que pour le coup, réputationnellement, l'impact est grave. Si j'étais elle, je ferais un recours, et je crois qu'elle l'a fait.
Abel Boyer. Je suis un peu dans le même esprit. Quand on voit le récit de cette pseudo-histoire, tout a été mis au conditionnel, en fait. Même dans l'énoncé, supposé. Et la question, c'est, est-ce que Rima Hassan est assez conne pour se droguer alors qu'elle sait qu'elle est convoquée par la police, quoi? Donc, voilà. Il y a une histoire qui est beaucoup plus, enfin, plutôt, il y a une affaire qui est beaucoup plus importante derrière. Et je pense que certains ont voulu se la faire dans la bassesse politique, tout simplement.
Bah ouais, certains, à commencer par CNews et compagnie, qui ont comme d'habitude feuilletonné là-dessus pendant 15 jours, alors que le vrai sujet suffit à nous alarmer, c'est quand même de l'apologie du terrorisme.
Et on a le droit de pas être pro Rima Hassan, on a le droit de pas être pro LFI, mais là c'était un petit peu trop gros, quoi.
Les GG, l'absurdité du jour, l'ancien otage français en Iran, Benjamin Brière, retenu pendant 4 ans dans le pays, s'est vu reprocher par le fisc français de ne pas avoir déclaré ses impôts durant cette période. On s'en fout ou pas, Charles?
On s'en fout pas.
Flora.
On s'en fout pas.
Abel.
On s'en fout pas.
On m'a demandé pourquoi je n'avais rien déclaré. J'ai expliqué que j'étais en prison, que je n'avais pas pu le faire. Ce à quoi l'agent des impôts m'a dit que même en prison, on fait ses déclarations. Oui, enfin, moi, j'étais dans une prison iranienne. Dans ce cas, votre famille aurait pu le faire, m'a-t-on répondu. Des propos recueillis par le journal du net. Sauf que sa famille, il n'arrivait à les avoir que 15 minutes toutes les 4 à 6 semaines à l'époque de sa détention, dans des conditions de détention donc extrêmement difficiles, évidemment. Ils avaient d'autres choses, on suppose, à évoquer que cette déclaration de revenus pendant 4 ans, mon cher Charles.
Je ne suis hélas guère surpris. Vous savez, on dit qu'il n'est pas de monstre plus froid que l'État. L'État est le plus froid de tous les monstres froids. Je pense qu'il faut des sanctions contre l'agent administratif ou les agents administratifs qui ont eu cet entretien avec ce garçon. Je trouve qu'il y a un manque de discernement de la part de ces fonctionnaires, pour ne pas dire de la bêtise crasse qui me paraît incompatible avec leur fonction. Et donc, j'estime qu'ils doivent être sanctionnés et sanctionnés durement. S'il me revenait de prendre cette décision, je les exclurais de la fonction publique et je les enverrais à France Travail se trouver un autre boulot.
Là où le fonctionnaire, je crois que c'est la fonctionnaire, c'est une femme,
je pense,
doit être sanctionné pour toi.
Pour moi, il faut des sanctions et j'en appelle au ministre du budget. Je ne sais plus qui est ministre du budget d'ailleurs, mais qui est ministre du budget?
Alors,
qui a remplacé Amélie de Montchalin? Parce que c'était Amélie de Montchalin. Si, c'est David Amiel. Non, c'est
Amiel,
pas David Amiel.
J'en appelle
attends,
à David.
Attends, c'est dingue. Là, tu nous as donné l'Escure est à Bercy.
Non, je pense qu'effectivement, c'est Amiel. Mais c'est
le jeune Amiel. Mais les ministres délégués au compte public, c'est David Amiel.
Moi, je pense qu'il faut des sanctions. Je pense qu'il faut des sanctions contre cette fonctionnaire.
Ouais.
Flora.
Flora, c'est aberrant comme histoire.
C'est aberrant comme histoire.
Il est obligé d'expliquer qu'il était donc dans une prison, la prison d'Evin, qui est une des prisons les plus dures au monde, et qu'effectivement, à ce moment-là, il pensait pas vraiment à ses impôts.
Et c'est aberrant. J'espère qu'il aura surtout pas à les payer, même avec retard.
Attention,
c'est pas garanti. Donc c'est bien qu'on en parle dans les médias pour mettre un peu de pression sur Bercy.
C'est la bêtise de l'administration.
C'est la bêtise de l'administration. Mais alors, ce cas-là, il est particulièrement caricatural. Mais on pense à tous les cas de par exemple femmes célibataires qui n'ont pas accès à leur congé maternité, personne n'a son congé maternité à l'heure, on pense à tous les cas où l'État n'est pas là, l'État ne sait pas répondre à des besoins qui sont précis et qui sont nécessaires et qui font tomber dans la précarité des gens, et vraiment c'est un scandale. Et je suis assez d'accord que vous savez, vous avez remarqué que dans le train, les agents SNCF, ils sont devenus très gentils et très sympas et très compréhensifs, alors qu'il y a quelques années, ça se passait toujours mal dans les trains. Ah bon? Eh ben, je sais pourquoi. C'est parce qu'ils ont été formés à l'empathie et ils ont été formés à la bonne conduite des relations. Et ça a tout changé. Et donc, je pense qu'il faudrait former les fonctionnaires de Bercy.
Les GG, le palmarès des villes françaises où on est le plus infidèle. On s'en fout ou pas, Charles?
À moitié.
Flora.
Il a envie de savoir.
Moi, ça m'intéresse quand même.
Abel.
Je dirais, je suis curieux.
Eh bien, c'est Bordeaux qui décroche le titre honorifique de capitale de l'infidélité en France, avec 13,26% des adultes inscrits sur un site de rencontre extra-conjugale. Les Bordelais et Bordelaises détrônent Paris dans ce classement établi par Gliden, l'application de rencontre adultérine. Lille et Paris ferment le podium devant Lyon et Rennes, qui complètent le top 5.
Attends, tu as dit Bordeaux ?
Bordeaux, on a un petit Bordelais.
On a un Bordelais dans l'équipe. Cache bien son jeu, c'est Pierre Rey.
Ouais.
Notre webmaster. Ouais, viens nous voir, Pierre.
Et d'ailleurs,
tu es convoqué.
Pierre.
Si, parce qu'on a besoin de te poser des questions.
D'ailleurs, j'ai souvent senti chez lui.
Bonjour Pierre. Ça va. Enfin, je dis bonjour, mais on s'est déjà vu ce matin, mais je dis bonjour à l'antenne.
Bonjour à tous.
Dis-moi, c'est quoi cette histoire des Bordelais infidèles?
C'est vrai qu'on a un peu cette réputation, et quand je vois autour de moi, c'est vrai que quand je vois tous mes copains, je réfléchis un peu. Ils ont tous fait des petits écarts.
Où est-ce que tu étais hier? Tes copains, parce que toi, tu es une fiancée.
Alors moi, j'ai une copine, mais je suis
comment s'appelle-t-elle?
Elle s'appelle Jeanne.
Jeanne, mais tu m'avais pas dit Clarisse. Tu m'as envoyé par WhatsApp un MMS avec des menottes.
S'il te plaît.
Clarisse, bonjour. Donc sache que Jeanne est concurrente.
Alors tu confirmes donc cette réputation d'infidèle à Bordeaux?
Bah oui, mais c'est parce que le cadre de vie à Bordeaux est tellement bien.
Ça appelle à la faute.
Faire la fête. Donc exactement ça.
Pourtant vous n'y avez pas cette réputation il y a quelques années. Bordelais, c'était un peu triste.
Depuis que la ville est passée à gauche.
Pierre, t'as vécu avec Louis en coloc. Paraît que c'était le défilé, me dit Louis dans l'oreillette.
Ça va trop loin. Il est 9h53, tôt pour raconter. Merci Pierre,
bien entendu.
Notre Bordelais confirme.
Olivier, le profil type du conjoint infidèle, selon l'application, c'est souvent des actifs qui occupent des postes à responsabilité. Et comment on explique la première place de Bordeaux? La plateforme a notamment gagné des parts de marché en région, et puis la crise sanitaire a rabattu les cartes avec beaucoup de couples en télétravail qui sont allés s'installer en province. Donc voilà.
Intéressant.
Alors,
Flora,
ça vous donne envie d'aller voir ces villes?
Ça m'étonne pas de Bordelais.
Non, moi je pensais que c'était Paris qui serait en tête.
Mais Paris, combien Paris?
Paris est deuxième, ouais.
Donc c'est
troisième,
Paris.
Troisième, pardon.
Et en deux, c'est?
C'est Lille, et après Lyon, les grandes villes. Hein. Écoutez,
Abel.
Non,
donc il va souvent à Lille.
Ouais. Homme marié, protégez-vous, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc Olivier, soyons forts face à la tentation. Voilà.
Bon,
délivrez-nous du mal.